sur France. RFI, grand reportage.
Donaigle Du.
We begin with the headlines. Stock markets around the world plummeted today.
Tonight, Wall Street goes into another tailspin.
Faillite bancaire, effondrement de la bourse, licenciement massif. L'économie américaine va mal. Depuis des semaines, les grands journaux télévisés tous les soirs apportent leur lot de mauvaises nouvelles. Ici, aux États-Unis, l'heure est à la morosité, voire à l'inquiétude. Et la crise économique a brutalement fait passer à l'arrière-plan tous les autres thèmes de la campagne électorale.
Tout le monde sait désormais que nous sommes dans la pire crise économique depuis la crise de 1929.
Barack Obama, candidat du Parti démocrate.
Beaucoup d'entre vous se font du souci pour leurs emplois, leurs retraites, leur capacité à payer des études à leurs enfants. Et je crois que c'est le verdict final de la politique économique lamentable qui a été menée ces 8 dernières années.
Les Américains souffrent en ce moment et ils sont en colère.
John McCain, candidat du Parti républicain.
Ils souffrent et ils sont en colère. Ils sont les victimes innocentes de la cupidité et des excès de Wall Street et de Washington. Et ils ont toutes les raisons d'être en colère. Et ils veulent que ce pays prenne un nouveau chemin.
Chômage en hausse, banque en déroute, consommation en berne, l'économie américaine est plongée dans la tourmente depuis plusieurs mois. Mais en septembre, la tempête est devenue un ouragan, avec la faillite de plusieurs organisations financières, la chute de la bourse, le plan de sauvetage de 700 milliards de dollars voté en urgence par le Congrès. Mark Wittner est analyste financier au siège de la banque Wachovia à Charlotte, en Caroline du Nord. Il est interrogé par Anne Toulouse.
Il y a beaucoup d'inquiétudes. Je ne dirais pas panique, parce que les hommes d'affaires en général ne paniquent pas. Mais ils ont réellement peur. Et cette peur-là, je ne l'ai pas vue chez les acteurs économiques depuis le 11 septembre. Et d'une certaine manière, ce qui se passe, c'est un 11 septembre économique. Un 11 septembre que nous avons nous-mêmes fabriqué. Oui, il y a énormément d'inquiétudes. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes.
L'inquiétude, on la retrouve partout, dans toutes les conversations. Paul est agent immobilier dans la région de Washington, la capitale. Sa zone, à lui, ce sont les banlieues huppées, parmi les plus riches des États-Unis. Pourtant, la crise, il la ressent de plein fouet.
Mon revenu à moi, il a diminué de 50% par rapport à ce qu'il était il y a 3 ans. Et à l'époque, on était au pic de la bulle immobilière. Donc je dois faire attention à l'argent que je dépense. Je suis en train de déménager. Je vais changer de quartier pour économiser sur le loyer. Je ne vais plus au restaurant, ni boire un verre dehors. Le budget distraction a été réduit. Et puis je n'achète plus de nourriture chère quand je vais faire les courses. Je mange plus de riz et de haricots. Oui, j'essaie de couper les dépenses partout où c'est possible. Quand je dois prendre la voiture, je regroupe les déplacements pour utiliser moins d'essence. J'essaye d'économiser sur l'électricité, le gaz. Oui, c'est ça, j'essaye de faire attention à l'argent que je dépense. J'ai un peu d'argent de côté, mais récemment, j'ai été obligé d'en retirer pour pouvoir faire face, et ça m'inquiète. C'est pour cela que j'essaye d'économiser surtout. En plus, il y a ma fille qui vient de perdre son travail. Le magasin pour lequel elle travaillait a fait faillite. Et donc, elle se retrouve sur le marché de l'emploi. Oui, pour les jeunes, c'est devenu très dur de retrouver du travail.
La ville de Baltimore, à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Washington, un peu plus de 600 000 habitants intramuros, une ancienne cité industrielle qui tente de se reconvertir dans les services. Une population noire à 65%, un quart de familles monoparentales, une criminalité 7 fois plus élevée que la moyenne américaine. Ici, comme dans beaucoup d'autres régions des États-Unis, les associations d'aide aux familles ont tiré très tôt la sonnette d'alarme en voyant se multiplier les saisies immobilières. Sally Scott est responsable de projet au Baltimore Neighborhood Collaborative, un regroupement d'associations de la ville.
There were financial incentives for people.
On a poussé les gens à faire des emprunts sur des montants bien plus élevés que ce qu'ils pouvaient rembourser. Et ceux qui consentaient ces prêts n'en étaient pas propriétaires. Ils les revendaient essentiellement à des investisseurs qui les transformaient en valeurs financières. Et c'est comme ça que le problème s'est retrouvé à Wall Street, mais aussi dans le monde entier. Donc, il y avait un manque de responsabilité pour les gens qui consentaient les prêts, puisqu'au final, ils ne leur appartenaient pas, et aussi un manque de transparence, puisqu'au final, ces prêts se sont retrouvés découpés et revendus en bourse, et le risque qu'ils représentaient avait été masqué. Et tout un tas d'organisations financières sérieuses, ici et à l'étranger, ont acheté ces prêts sans se rendre compte des risques. Il y avait des crédits que l'on appelait sans justificatif, où vous n'aviez même pas approuvé vos revenus. Et il y a des gens qui ont trafiqué les papiers pour que les emprunteurs aient l'air d'avoir plus d'argent que ce qu'ils avaient en réalité. Les gens ont été irresponsables, mais en même temps, ceux qui prêtaient profitaient de leur naïveté. Donc, il y a des responsabilités des deux côtés. Mais normalement, ça n'aurait tout simplement pas dû être autorisé de faire ces crédits.
Sur une carte de Baltimore, des petites maisons rouges, près de 3000. C'est 1% des foyers de la ville et c'est le nombre de procédures de saisie engagées dans les 9 premiers mois de l'année 2008. Sally Scott.
Two years ago, there was, we were seeing the increase.
Ça a commencé à monter sérieusement il y a 2 ans. On a atteint des sommets l'an dernier. Cette année, on a eu un tout petit peu de ralentissement du rythme des saisies parce que l'État du Maryland a changé la loi en avril. Donc ça a ralenti les choses pendant 3 mois. Mais maintenant, ça commence à remonter. Et ce qui nous inquiète beaucoup, c'est qu'en plus de tous ces prêts qui avaient été consentis, que les gens n'auraient pas pu rembourser de toute façon, maintenant, on est dans une crise économique qui probablement va amener des gens qui pouvaient payer à se retrouver insolvables parce qu'ils perdent leur emploi et ça, ça va entraîner encore plus de saisies.
De proche en proche, la crise a gagné l'économie tout entière. Cette affaire des prêts n'est évidemment pas seule en cause. La hausse du prix du pétrole l'an dernier, la concurrence des pays asiatiques, de nombreux facteurs ont contribué à ralentir la croissance américaine. Mais aujourd'hui, la crise est là. Installé. Marc Wittner de la Banque Wachovia.
Il y a certainement en ce moment une spirale qui tire les choses très fort vers le bas. Mais le carnage que l'on voit à Wall Street, on ne devrait pas le voir aussi fort dans l'économie réelle. Les récessions aux États-Unis ont tendance à ramener les secteurs de l'économie à leur juste valeur. Et ce qui avait grimpé de façon déraisonnable pendant les années de boom, c'est aussi ce qui est le plus fortement touché aujourd'hui. Ce sont les marchés de l'immobilier, les services financiers et dans une certaine mesure, le commerce de détail. Voilà les 3 domaines les plus affectés. L'industrie est certes très ralentie, mais on estime qu'elle tiendra. L'économie mondiale est ralentie, donc on suppose que les exportations vont diminuer, mais on estime que l'industrie tiendra.
Et en attendant, le climat général est plus que morose. Les gens sont inquiets, ils limitent leurs dépenses, la consommation baisse. À Baltimore, Maguet Samba, coiffeuse d'origine sénégalaise, n'a qu'un seul client cet après-midi.
Oui, les gens parlent de leurs soucis parce que... tout le monde parle de ça. Par exemple, lui, il doit venir chaque 2 semaines. Mais aujourd'hui, je lui dis, mais ça fait 4 semaines que je n'étais pas vu. Donc, les gens ne viennent plus aussi souvent qu'ils venaient à cause de la crise. Et je comprends ça parce que chacun est en train d'essayer de faire des économies, d'essayer de ne pas trop dépenser, d'essayer de... Dépenser seulement quand c'est très, 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 très nécessaire. Like, le superflu, ils essaient de couper ça un peu.
Une crise qui commence aussi à avoir un impact à plus long terme. Les États croulent sous les demandes d'aide financière. Certains ont déjà prévenu qu'ils n'arriveraient pas à indemniser les nouveaux chômeurs. Pour d'autres, ce sont aussi des rêves d'avenir qu'il faut remettre à plus tard. Donovan, qui travaille comme garde de sécurité, a cessé
de suivre ses cours du soir à l'université.
L'éducation, je ne peux plus me le permettre. C'est beaucoup plus dur de trouver une bourse maintenant qu'avant. Il y a un an, je prenais des cours du soir à l'université et j'avais une bourse pour ça. Mais maintenant, on m'a dit que les bourses avaient été coupées. Et c'est pour ça que je n'y vais plus. J'y allais 4 soirs par semaine, ça coûtait 1 200 $ par semestre. Je ne gagne pas assez pour payer cela. Et partout où je demande des aides financières, on me les refuse parce qu'on me dit que je gagne assez. Mais ce n'est pas vrai et j'ai vraiment l'impression que tout augmente partout. Il n'y a que la paye qui n'augmente pas et c'est très dur. C'est un scandale de voir ça. On n'a plus les moyens de rien faire. J'ai des copains qui me disent qu'il faut qu'ils fassent des choix maintenant entre manger ou faire le plein de leur voiture. C'est dur de voir ça. Cette inflation et tout ça, c'est complètement dingue.
Un matin de semaine au centre du Père McKenna, une structure mise en place pour venir en aide aux plus pauvres. Il est 11h et comme tous les matins, les volontaires s'affairent à distribuer des colis de nourriture.
Ici, on est à proprement parler dans l'ombre du Capitole.
Tom Howard, directeur du centre.
Regardez, si je me mets sur les marches de l'église, je regarde à droite et je vois le Sénat des États-Unis. Je regarde à gauche et je suis dans l'un des quartiers les plus pauvres d'Amérique. Il y a deux Washington. Le Washington officiel avec les ambassades, la Maison Blanche, les monuments, et puis il y a l'autre Washington. Il n'y a pas de quart de touriste ici. On peut trouver plus facilement des magasins où l'on vend de l'alcool que des épiceries. Et ça, ça a toujours été comme ça. C'est l'héritage des descendants d'esclaves et des descendants de propriétaires d'esclaves, et il y a énormément de gens qui, comme un résultat de cette histoire, sont tout en bas de l'échelle sociale.
Assis sur une chaise en plastique, voici Curtis, 61 ans. Un de ces cabossés de la vie, trop malade pour travailler, un long passé de misère, de drogue et d'errance, trop jeune encore pour prétendre aux aides que l'État fédéral accorde aux plus âgés.
Well, this morning I came here for some food because I want to get $120 worth of food stamps.
Je suis venu chercher à manger, je n'ai que $120 par mois de bons de nourriture. Alors quand il n'y en a plus, je viens ici, comme ça j'aurai de quoi manger pour les 2 semaines qui viennent.
This became harder because a lot of, you know, like this place, like, you know, where they might have given you.
C'est de plus en plus dur parce que dans des endroits comme ici, par exemple, ils nous donnent moins qu'avant. Alors c'est dur pour eux, donc c'est dur pour moi aussi avec cette crise économique. Mais un des trucs que j'aime ici, c'est qu'ici, ils ne vous donnent pas seulement à manger, ils vous soutiennent aussi. Tu sais, parfois on a besoin d'autre chose que de nourriture. On a aussi besoin de parler avec des gens.
Miller! Chaque jour de semaine, 20 à 30 personnes viennent ici chercher de quoi se nourrir. Et Tom Howard s'inquiète pour l'avenir proche.
Les gens que nous recevons ici, ils sont en crise tout le temps. Alors, la situation actuelle, qu'est-ce qu'elle change? Elle change pour nous en ce qui concerne nos ressources. Le tiers de l'argent qu'on reçoit provient de fondations caritatives et la philanthropie souffre beaucoup parce que les sociétés qui sont en bourse, qui ont beaucoup perdu, elles doivent tout réduire. Donc on nous dit, au lieu de $10,000, on vous en donnera 5,000 ou pas du tout. Donc, ça nous préoccupe beaucoup, mais vous savez, les gens dont on s'occupe, ils vont mal tout le temps. La seule chose, c'est que pour eux, ça devient de pire en pire. Cela ne s'améliore pas.
Minnie, elle, a 78 ans. Elle attend, elle aussi, son colis alimentaire. Ça fait plus de 10 ans qu'elle vient ici.
Laissez-moi vous dire ce que j'en pense, moi, de tout ça. L'économie va mal pour les gens qui ont un certain style de vie. Mais nous, les pauvres, on vit tout le temps pareil. On a l'habitude de se battre, de ne pas pouvoir faire les choses. Et puis moi, vous savez, je sais cuisiner. Je n'achète pas de steak ou de côtelettes ou de trucs comme ça. Mais je sais faire des trucs à manger pour me nourrir. Nous, on n'a pas de maison, donc on n'a pas de crédit à rembourser et tout ça. Moi, j'ai toujours assez à manger, je me débrouille. Je ne suis pas du genre à m'acheter des robes et des trucs comme ça, donc je ne me plains pas.
I don't complain.
Les plus pauvres ne se plaignent pas, certes, mais si les dons diminuent, ils seront eux aussi frappés de plein fouet dans les mois qui viennent. Les Américains se demandent de quoi demain sera fait. Robert a 58 ans, il est ingénieur informaticien et il est en colère.
The warning signs have been there for years, and I think many people have known.
Ça faisait des années que les signes étaient là. C'était pas sorcier de comprendre que c'était dangereux. Tous ces gens qui gagnaient autant d'argent à la bourse et qui achetaient toutes ces maisons sans avoir l'argent, il fallait bien se douter qu'un jour ou l'autre il faudrait rendre des comptes. Et là, ça y est, on y est.
And this is it. Wall Street are businessmen.
Les businessmen, leur boulot, c'est de gagner de l'argent. Le boulot des politiciens, c'est de faire en sorte que tout cela reste moral. Et depuis 8 ans, et même avant sans doute, mais enfin, depuis 8 ans, la dérégulation a créé le problème. Wall Street faisait ce qu'elle voulait, et voilà le résultat. Si le gouvernement existe, c'est bien pour quelque chose, et il ne l'a pas fait. Eh bien, la facture pour nous, elle va être salée.
And let Wall Street do what it wanted, and we're going to pay a severe price for that, and we are. When business is going good, all the politicians look good.
Les hommes politiques, quand l'économie va bien, ils vont bien, ils en tirent tout le bénéfice. Il leur suffit de regarder Wall Street, ça monte, tout va bien. Ils ont surfé sur cette vague avec Wall Street et ça nous a mené là. Ils n'ont pas joué leur rôle, ils n'ont pas fait leur travail.
It's up to the politicians to do that, and they failed.
Alors, les États-Unis ont-ils déjà touché le fond de cette crise économique ? Non, répond Mark Wittner de la Banque Vacovia.
Écoutez, ça fait 25 ans que je fais ce boulot. J'ai vu le crash boursier de 87 qui est apparu très brutalement. Tout s'est passé en 2 semaines. Mais en 87, Wall Street a terminé l'année plus haut qu'il ne l'avait commencé. Ici, on a eu des marchés complètement perturbés depuis le début de l'année. Et je crois que cette fois, tout cela est bien plus enraciné dans l'état général de l'économie américaine. On est en plein dans une récession qui est probablement aussi grave que celle que l'on a vue en 75 ou en 80. Ça devrait durer au moins 16 mois encore, et il faudra ensuite au moins un an pour s'en remettre. Donc, je n'imagine pas que l'on puisse voir la fin de cela avant 2010-2011. C'est dans longtemps. L'économie n'est pas likely to strengthen in a big way in the United States until 2010-2011. That's a long ways off.
Mardi, les Américains se rendent aux urnes pour ce qui est sans doute l'une des élections les plus importantes de ces dernières années. Beverly, rencontrée le long des étals sur le marché de Baltimore, va voter pour Obama. Elle souhaite évidemment que son candidat soit élu, mais elle lui souhaite aussi bien du courage.
Ça va être tellement dur pour le futur président. Il ne se rend pas compte de ce dans quoi il s'engage. C'est une telle pagaille. La corruption, les mensonges, tout ça, je crois qu'il ne se rend pas compte. Le plus urgent pour moi, c'est l'économie, l'éducation, la santé. Tu vois, je suis venue ici à Baltimore parce que ma belle-sœur est à l'hôpital ici. On ne sait pas si elle va s'en sortir et on ne sait pas non plus comment on va payer les factures de l'hôpital. Donc la santé et l'éducation, oui, c'est très important pour moi. Il va falloir qu'il essaie de nous mettre tous ensemble. Il nous dit ce qu'il va faire, mais s'il n'a pas un congrès qui l'aide, il ne pourra rien faire de toute façon. Alors, on verra bien.
Un reportage signé Donna Ecledu, réalisation Marc Minatel.